Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On fait comment? On fait un truc un peu... Je sais quel ton tu prends, toi. Est-ce qu'on fait un truc un peu suave, genre « Bienvenue dans Milkshaker » ou un truc plus joyeux, genre « Bienvenue dans Milkshaker » Ouais, peut-être un truc plus joyeux, parce que là, ça fait un peu Milkshaker porno. Allez, j'y vais.
Vous l'aurez compris, aujourd'hui est un épisode spécial, c'est l'anniversaire de Milkshaker. Le podcast fête sa première année et pour l'occasion, j'ai décidé de vous livrer mon histoire et de donner les manettes à Cédric Rostin que vous venez d'entendre échauffer sa voix. J'ai rencontré Cédric via Instagram, il est entré dans le clan des Milkshakers lors de l'épisode 10 et je ne vous présente plus son désormais célèbre podcast Papatriarcat qui m'accompagne dans ma parentalité. C'est lui qui va poser les questions aujourd'hui. Je passe donc de l'autre côté du micro et j'espère que cela vous plaira. Je vous livre mon témoignage d'allaitement qui évidemment a guidé mon chemin vers la création de ce support que j'ai imaginé pour vous informer. Allez, je lui redonne les manettes de Milkshaker. Il a dit qu'il me les rendrait ensuite. J'espère qu'il tiendra promesse. Réponse la semaine prochaine.
Bienvenue dans Milkshaker. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Bergeau. Charlotte, vous la connaissez peut-être justement sur les réseaux parce qu'elle a créé le podcast Milkshaker. Aujourd'hui, elle me confie les clés de son podcast pour justement qu'elle puisse nous livrer son histoire à elle, son histoire d'allaitement, son histoire de maman, et aussi son histoire de professionnelle de santé, puisqu'elle est ostéopathe spécialisée pour suivre les grossesses et les sujets de périnatalité. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que je vais donc mener cette interview qui va commencer tout de suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. On va commencer par dire que le lait, la préparation grasse de nourrisson, c'est important, que c'est vraiment le meilleur aliment pour le bébé, le plus adapté à son développement, et que vraiment l'allaitement, c'est quelque chose qu'il faut arrêter.
Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette connerie. Plus des gens qui veulent absolument informer sur ce sujet, je sais pas où on va, mais des sottises, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, là, c'est quoi ces femmes qui veulent montrer leurs seins partout
Merde, les seins, c'est... À l'intérieur des foyers, de toute façon, ils appartiennent à leur mari ou à leur conjointe.
C'est ça. Donc là, c'était Connerie Checker, un podcast de Charlotte Bergeron. Bon, allez.
Merci Cédric pour ce beau résumé.
Salut Charlotte.
Salut Cédric.
Bienvenue dans Milkshaker.
Merci de m'accueillir dans Milkshaker.
Alors, je t'aurais un petit peu présenté avant qu'on prenne la parole, mais est-ce que toi, voudrais te présenter un petit peu, nous parler de toi, qui tu es, si tu as des enfants, combien, et ce que tu fais dans la vie?
Donc moi, je suis Charlotte Bergeron Palisco. Je suis ostéopathe dans la vie, spécialisée en périnatalité. Donc je m'occupe, comme je dis dans l'introduction, des femmes en général, tout au long de leur vie, et puis plus particulièrement autour de la période périnatale, et puis je m'occupe après de leurs bébés, une fois qu'ils sont arrivés. Et une corde à mon arc, c'est de m'occuper des bébés quand ils ont des soucis pour téter, et je les aide en les libérant de leur tension à mieux téter, à éventuellement faire moins mal, à mieux tirer le lait de maman, et donc à mettre en place un allaitement cool, serein.
Et toi, t'en as des enfants ?
Ah oui, pardon, j'oubliais. Oui, bah oui, moi j'ai un enfant qui a presque 3 ans déjà. Et voilà, il est né en septembre 2018 et c'est un bébé que j'ai allaité.
Alors je vois que tu parles au passé, donc je suppose que l'allaitement est terminé, c'est ça ?
Tout à fait, je l'ai allaité pendant 1 an.
Tu l'as allaité pendant 1 an, ok. Et cet allaitement, avant qu'il se mette en place, c'était quoi ta vision de l'allaitement ? C'était plutôt une évidence ? T'avais peur que ça fonctionne pas ? Ça te dégoûtait peut-être ? Ou tu te disais juste, bon, on va tenter le coup, voilà.
Je me disais exactement ce truc-là, c'est on va tenter le coup. J'avais pas trop d'a priori sur le truc. Je m'étais quand même dit, je crois que la phrase type, c'était « Moi, j'ai envie d'allaiter, mais si ça marche pas, je vais pas m'acharner. » Voilà. J'avais envie, je le faisais pour lui offrir le meilleur, parce que je savais que le lait maternel, c'était le meilleur que je pouvais lui offrir en termes nutritionnels. J'avais pas trop d'attentes quant à la relation, le contact avec lui, etc. C'était même pas forcément un truc qui m'attirait. Donc je le faisais vraiment pour lui apporter le meilleur. Et finalement, je me suis quand même un peu acharnée.
C'est-à-dire acharnée. Tu t'étais fixé un objectif au final ?
Non, je m'étais fixé aucun objectif. Je m'étais dit, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais une fois sur le terrain, l'histoire a voulu que, un peu contrainte et forcée quand même, il a fallu que je m'acharne pour que ce soit serein. Mais non, je partais vraiment, en fait, avec... je m'étais mis un truc dans le cerveau qui me rassurait de me dire si ça marche pas, en fait, c'est pas grave, tu laisseras tomber. En vérité, je me suis rendu compte une fois que j'y étais aussi que c'était plus important pour moi que ce que j'avais bien voulu me dire à moi-même avant.
Et tu dis un peu contrainte et forcée, donc moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a un début d'allaitement qui est peut-être pas si facile que ça. Vous avez rencontré des difficultés ?
Ouais, pas hyper facile, parce que pour différentes raisons, j'ai connu l'hyperlactation. Donc ce phénomène qui fait que, en fait, tu... Ouais, voilà, exactement. C'est les milk shower toute la journée. Tu débordes littéralement H24, en fait. Et je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je savais même pas que c'était possible de déborder comme ça. Je savais que tu pouvais avoir des fuites dans les premiers temps, mais moi c'était plus des fuites en fait, je baignais dans le lait vraiment. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Andrea est né après un accouchement assez long, et il est parti en néonate parce qu'il a eu un petit retard au démarrage, je dirais. Il a eu un peu de mal à respirer en arrivant, il arrivait un peu livide voire vert. Et donc ils me l'ont embarqué rapidement et il a passé 24 heures en néonate. Donc c'était pas moi qui le nourrissais. Alors il faut savoir que moi je partais dans l'allaitement à cette époque-là avec zéro connaissance, c'est-à-dire que celle que vous entendez aujourd'hui dans les podcasts et qui informe en même temps, c'est pas celle du tout qui a accouché. Ma formation autour de l'allaitement, elle est intervenue après la naissance d'Andrea. Et donc le premier jour, on me dit non, c'est pas la peine de faire du tire-lait ou de stimuler ou je sais pas quoi, on laisse comme ça. Ok, fine, on laisse comme ça. Donc le petit monte en néonate, il va très vite mieux, donc il n'y a pas trop de stress autour de ça. Et je pense qu'on commence l'allaitement, si je me souviens bien, parce qu'honnêtement j'étais un peu dans le coltard, on commence l'allaitement à proprement dit plus de 24... Ouais, non, le lundi je ne l'allaite pas non plus. Je crois que la première tentative de mise au sein, on l'a fait le mardi matin, alors qu'il naît le dimanche matin à 9h.
Ah ouais.
Ouais, ça commence vraiment après. Et en fait, entre-temps, moi, mes seins, ils avaient déjà commencé à, à exploser. Il y avait pas encore de... Ça dégoulinait pas encore de partout, mais ça commençait à sérieusement se tendre. Je crois que le lundi après-midi, il me propose quand même de commencer à tirer pour stimuler, donc plus de 24 heures après. Et le mardi matin, on essaie de le mettre au sein. C'est un échec. C'est franchement un échec. Mais malgré le fait que cet enfant ne tète pas, le tire-lait toutes les 3 heures pendant je sais plus combien de temps, moi très vite j'ai du colostrum qui arrive, les puéricultrices me regardent genre « oh waouh », enfin en fait j'ai des biberons de colostrum entiers, alors que normalement c'est des toutes petites quantités. Elles me disent « ah oui, bon, c'est bien, ça va bien se passer et tout ». Et moi là en fait les jours qui suivent mes seins deviennent des obus, et enfin quand on me connaît, on se dit que comment c'est possible, parce que le reste du temps, enfin ma poitrine c'est comme si c'était un truc qui n'existait pas, en fait. Je n'ai pas de poitrine. Donc, quand tu te dis que mes seins sont devenus des obus, ils étaient prêts à exploser. Et quand le petit se met au sein là-dessus, aïe, ça fait mal. Bon, mais finalement, c'est pas le plus dur, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à s'accrocher. Les seins sont tellement tendus que c'est hyper compliqué. Et moi, je commence à dégouliner. Donc, au tire-lait, c'est la teuf. Je commence déjà à faire des stocks. Le petit, il a besoin de même pas... un dixième de ce que moi je produis. Donc quand il se met au sein, quand même vaguement il arrive à attraper quelque chose. On le complète avec un dalle. Heureusement à ce moment-là en fait que je suis en néonate, parce que on est quand même un peu mieux accompagné en néonate, je trouve, que dans les suites de couches classiques. En tout cas moi j'ai eu un accompagnement un peu meilleur. Et donc il lui donne pas de biberon, il lui donne ça au dalle en plus du sein. On met le dalle sur la poitrine pour qu'il se mette quand même au sein et qu'il comprenne que ça arrive comme ça. Et puis, je reste un peu plus longtemps à la maternité, parce que ça met un peu de temps à se mettre en place et qu'il ne se met pas vraiment au sein. Il prend du poids, mais il prend du poids parce qu'il a ses apports de compléments de mon lait. Et je reste un jour de plus, et finalement, il arrive à se mettre au sein, bout de sein et dents, parce que mes seins sont toujours durs comme du bois. Enfin, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'en ai un souvenir désagréable, parce que c'est douloureux, quoi. Enfin, il n'y a plus rien qui peut se poser sur ton sein. Mais bon, voilà, je sors de la maternité comme ça, et en fait, une tétée avec Andrea, qui est au sein d'un côté avec un bout de sein, c'est de l'autre côté une coque d'allaitement qui se remplit de 100 ml de lait, quoi.
Ah ouais?
Ouais. Voilà. Et ça dure un bon moment, je me dis que ça va se calmer, mais ça se calme pas. Et donc c'est pour ça que, en fait, j'avais dit, si ça se passe bien, j'allaite, si ça se passe pas bien, j'allaite pas, mais en vrai, ça se passait pas bien, parce que c'était l'enfer. Il était sur le bout de sein, mais il y en avait partout, parce qu'il y en avait tellement, lui, pour gérer, il laissait couler, quoi. Il avait plutôt une bonne succion, mais il en laissait partout, parce que c'était beaucoup trop ce qui lui arrivait dans la tronche. Donc, j'ai des photos de lui, la gueule recouverte de au-dessus du nez jusqu'en bas du menton, de lait après une tétée, parce qu'il en a vraiment partout. Et moi, de l'autre côté, qui fait des stocks avec ma coque, là. Et donc, je pense qu'au bout d'une semaine, je ne sais pas combien j'ai déjà de litres au congélateur, mais c'est du délire. Mais je ne pouvais pas arrêter, parce que quand tu es comme ça... Moi, je m'étais imaginé, si ça se passe pas bien, que ça se lance pas bien, bon, bah, j'arrête. Sauf que là, en fait, j'étais engorgée en permanence. Donc, je peux pas arrêter. En tout cas, pas du jour au lendemain. Et c'est là que mon entourage commence à me dire, bah, ça se passe pas bien, arrête. Bah, en fait, là, je t'explique, non, je peux pas arrêter. Et donc, voilà, c'est pour ça que les démarrages ont été compliqués, et qu'un peu contrainte et forcée quand même sur le moment, j'ai continué parce que je me disais, il faut que ça baisse de toute façon, cette quantité de lait. Et si ça baisse, autant que je trouve l'équilibre pour que ce bébé il puisse quand même être allaité, quoi.
Et comment ça a baissé alors ?
Ça a baissé parce que j'ai contacté une consultante en lactation. Je connaissais ce métier de nom de par mon métier, comme je suis ostéopathe. Voilà, c'était un nom de métier dont j'avais déjà entendu parler. J'avais une bonne idée de ce qu'elle faisait. Mais je me souviens d'appeler en disant bon bah je sais pas si elle va pouvoir m'aider, mais en tout cas même en termes de culture générale pour moi pour mon métier ce sera intéressant de savoir ce que font exactement ces consultantes en lactation. Et donc j'en contacte une avec qui je travaille maintenant aujourd'hui et qui vient me voir très rapidement à la maison et qui me dit ah oui en effet c'est la fête quoi. Enfin il y a trop de lait, le bébé il se noie, elle essaye de me faire enlever les bouts de sein. Mais en fait, quand on enlève le bout de sein, le pauvre chat, ça glisse, quoi. C'est comme une piste de ventre glisse, tu vois, mon sein avec le lait dessus, il n'arrive pas du tout à s'accrocher. Donc, on galère un peu. Mais finalement, elle arrive quand même à me le placer sans le bout de sein. Mais la priorité, elle reste que ma production de lait, elle diminue. Parce qu'elle vient ce jour-là, ça se passe bien, la consultation et tout, elle repart, je suis rassurée et tout. Mais je me souviens que le lendemain, je la rappelle et je lui dis « En fait, Catherine, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je suis trempée, H24. Mon lit était trempé, le canapé était trempé. J'avais des langes que je calais dans le soutien-gorge pour que ce qui dégoulinait de la bouche d'Andrea et de mon sein aille quelque part autre que sur mes vêtements. Enfin, moi, tu vois, allaiter stylé avec des fringues d'allaitement, ça n'existait pas. J'enlevais tout, il restait le soutif avec le gros linge par-dessus. Je dis toujours, mon allaitement, il était socialement complètement incompatible, tu vois. Je pouvais pas aller dîner quelque part et mettre mon bébé au sein. Quand bien même j'aurais voulu, parce que j'étais pas d'une team hyper à l'aise à allaiter dans les lieux publics ou quand il y avait du monde autour, mais je pouvais pas, en fait. C'était vraiment... Là, pour le coup, c'était le striptease et il y en avait partout. Et la coque de l'autre côté, vas-y qu'il me faut le biberon pour vider la coque et la remettre après. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc finalement, je la rappelle et je lui dis « Non, ça va pas, je peux pas rester comme ça, j'en peux plus, je suis trempée. » Et elle me dit « Ok, on va trouver des solutions. » Donc elle me propose d'alterner, de faire des tétés sur le même sein plusieurs fois d'affilée pour calmer un peu de l'autre côté. Ce truc-là fonctionne pas. Et finalement, elle me fait faire ce qu'on appelle un drainage complet. Donc c'est une technique où le matin, tu te lèves avant que bébé ait faim. Donc déjà, c'est très pratique pour calculer avec un enfant de 3 semaines, je crois. Et pendant une demi-heure, je crois, tu tires les deux seins. Il faut vider les seins une bonne fois pour toutes, et après, on met le bébé au sein. Donc je dis à mon mec, ok, demain matin, tu pars pas tôt de la maison, il faut que tu sois là pour gérer le petit tant que je suis au tire-lait et que je peux pas l'avoir au sein. Je tire pendant une grosse demi-heure, et derrière, je mets Andrea au sein. Tu le mets autant qu'il veut d'un côté, et ensuite, tu... alterne par tranche de 3 ou 4 heures. Je me souviens plus, j'ai pas une bonne mémoire sur ces trucs-là. Par tranche de 3 ou 4 heures, soit un sein, soit l'autre, mais tu peux pas donner deux seins différents dans les 3 premières heures, puis dans les 3 à 6. Voilà. Bon, moi, le petit, quand il tète à un sein, en fait, il a pas du tout besoin de téter à l'autre, donc il n'y a pas de sujet. Il tète, 3 heures après, il passe à l'autre. Et en fait, j'avais pas du tout un enfant, du coup, qui tétait H24, puisque de toute façon, il avait trop, donc il était repu, il se rendormait derrière et on n'en parlait plus. Et ce truc-là a plutôt bien marché. Et c'est ça qui m'a permis de calmer le jeu. Voilà, ça m'a permis d'arrêter d'être engorgée toute la journée, d'avoir mal, parce que en fait j'avais mal. J'avais des zones qui s'engorgeaient en permanence parce qu'il n'arrivait pas à tout tirer. Et puis je sais pas, je dirais que une semaine après ce truc-là, je me dis ok, là j'ai trouvé un compromis et c'est tolérable et j'ai arrêté de m'engorger complètement à ce moment-là. Donc quand il tirait sur un sein, le sein se vidait et après on pouvait passer à l'autre. Et puis de temps en temps, voilà, il y avait un petit loupé s'il avait passé un peu trop de temps à dormir ou autre. Mais voilà, ça s'est déclenché comme ça.
Donc si je comprends bien, pendant une semaine, tu te retrouves à devoir te lever avant ton enfant pour aller drainer tes seins. Juste un jour, ça, d'accord, ok. Ok, parce que pour le coup, j'imagine, j'étais en train d'imaginer aussi, tu vois, la contrainte que ça pouvait être pour toute la famille. Ça avait été le cas, t'imagines?
Non, juste un jour, et j'avais le droit de le refaire une fois si jamais ça serait engorgé trop. Et il me semble l'avoir fait une deuxième fois.
D'accord.
Il me semble que je l'ai fait une deuxième fois parce que ça serait engorgé quelques jours après.
Et en combien de temps, pour le coup, la lactation s'est vraiment calmée? T'as pu retrouver un rythme de croisière, on va dire, plutôt commun?
Je me souviens de dire à une copine au bout d'un mois qui me demandait comment ça allait, de dire... c'est pas encore génial, tu vois. Donc la consultante, elle est venue quand il avait 3 semaines. Et à ce moment-là, de ce message, je me souviens de dire, là, si dans une semaine, ça va toujours pas, je commence à perdre un peu la patience, quoi.
Tu vois, j'avais pas une motivation.
je coupe mes seins, exactement. Ou alors, je sais pas, amenez-moi d'autres bébés, en fait. Mais faites quelque chose, il faut qu'on les vide. non, voilà, je pense qu'un mois, et une semaine... J'ai trouvé un rythme qui était tolérable. Après, ça reste que, honnêtement, il y avait tellement de quantité, ça allait tellement vite que ce truc d'allaitement qui dégoulinait un peu, ça a quand même duré un moment, quoi. C'était tolérable pour moi hors des moments des tétés, mais les tétés étaient encore un peu too much. Voilà. Mm-hmm. Et le petit, tu vois, moi, j'ai pas connu ces tétés en grappe le soir, ces bébés qui restent accrochés au sein. Les pics de croissance, pour moi, c'est un non-sujet. Enfin, j'ai jamais eu un bébé accroché à mon sein toute la journée. Il tétait et il se retrouvait en mode larve, complètement repu, la bouche de côté. Et voilà, fin de l'histoire.
Ça, tu faisais du gavage de bébé.
Ouais, voilà, exactement. Okay. Je gavais mon enfant. Et quelque part, je pense que ça m'arrangeait un peu parce que, encore une fois, à l'époque, j'étais pas renseignée, informée comme je le suis aujourd'hui. Et pour moi, l'allaitement devait être quelque chose de nutritif à cette époque-là. Je sais pas si j'aurais apprécié ou supporté d'avoir un bébé au sein toute la journée.
D'accord. Ouais, en effet, c'est quelque chose de particulier. Et donc, pour le coup, sur les 12 mois, cette période-là, avec les seins très tendus et ses contraintes, ça a duré combien de temps? Ça a duré la moitié? Plus, moins.
Ça a duré, je te dis, ce mois et demi au démarrage. Après, après un bon mois après, tu vois, on était sur quelque chose de stable où j'étais plus obligée de mettre des langes de partout, etc. J'ai toujours eu des quantités de lait importantes. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis plutôt dans la team de celles qui produisent sans rien faire. Et qu'il n'y avait pas besoin de stimuler autant à la maternité. Tu vois, j'avais le petit au sein. Et en plus, il me faisait tirer mon lait des deux côtés toutes les 3 heures. Donc en fait, on a surstimulé. C'est probablement une hyperlactation qui était un peu induite par une surstimulation au démarrage. Parce qu'ils avaient tellement envie en néonate que ça se mette en place que moi, je tirais tout le temps. Puis moi, on me disait que c'était important. Donc vas-y, go. Et puis moi, j'y arrivais au tire-lait. Ça sortait tout seul. Donc tu sais, en un quart d'heure, les biberons, ils étaient pleins. C'était sympa.
Une pensée pour toutes les mamans qui galéraient à tirer.
Et, non, mais exactement. En plus, c'est ça. J'avais ma voisine à côté, je me souviens, avec un bébé. Puis Andrea, il était né à 39 semaines, 3 kilos, en néonate, c'était un géant, quoi. Enfin, c'était le bébé. Ah, c'est Andrea, il est mignon, machin. Il avait juste fait une petite heure de détresse respiratoire. C'était le bébé pas inquiétant, la maman qui était pleine de lait. Enfin, en fait, on était le crew pas du tout embêtant de la néonate. J'avais ma voisine, en effet, à côté, qui, elle, galérait à mettre la petite au sein, qui tirait je sais pas combien de fois par jour. Enfin, bref, c'est... Je me disais, on joue pas dans la même cour.
Et sur cette hyperlactation, pour le coup, est-ce que t'en as parlé avec les générations précédentes dans ta famille ? Est-ce qu'il y avait, c'est quelque chose qu'elles avaient connu, s'il y avait eu des allaitements ?
Ma sœur, ma grande sœur a allaité sa petite. Je me souviens qu'elle a eu une montée de lait importante, mais pas un bazar comme ça ensuite.
Ouais, c'était pas la fontaine comme toi, quoi.
Non, c'était pas la fontaine comme ça. Ma mère ne nous a pas allaités. Aucune de nous trois, on est trois filles, on n'a pas été allaitées. Donc, il y avait aucun... Non, mais j'arrivais là-dedans, vraiment, c'était parce que je savais... par mon métier et mon côté un peu, voilà, la nature, c'est bien, et tout ce qui est naturel est mieux. Je voulais allaiter vraiment exclusivement pour ça. J'étais pas du tout renseignée, et j'avais un entourage pas allaitant. Des copines allaitantes, j'en avais pas trop, parce que Andrea fait partie de cette première, entre guillemets, fournée de bébés qu'on a eue avec mes copines proches. Il était le premier, donc j'étais la première à tenter l'expérience aussi. Et avant ça, j'ai des copines qui ont allaité, mais c'était même pas un sujet dont on avait parlé, quoi. Donc j'étais pas renseignée, et au niveau familial, c'était le néant, l'allaitement. D'ailleurs, pour eux, ça allait toujours, en fait. Ils ont toujours pas compris pourquoi je l'ai allaité aussi longtemps.
Ok, on va venir un petit peu après. J'ai deux petites questions à te poser, pour le coup. Avec cette hyperlactation, est-ce que, pour le coup, le sujet du don de lait s'est posé ? Est-ce que tu étais au courant ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou pas ?
Ouais, j'étais au courant que ça existait. Je sais plus par quel canal j'avais appris ça, mais en tout cas, j'étais au courant que ça existait. Je me suis posé la question très rapidement. C'est pas en néonat qu'on m'en a parlé, bizarrement, et après coup, je me suis dit que c'était dommage. Mais je savais dans un coin de ma tête que ça existait, mais je l'ai fait assez tard, parce que suite à l'accouchement, j'ai une sorte d'infection urinaire un peu latente qui était là et qui a commencé à être traitée un mois et demi après l'accouchement. Et pas informée, j'étais persuadée que tant que j'étais avec mes traitements antibio, parce que je l'ai récidivé une deuxième fois, j'étais persuadée que tant que j'avais mes traitements antibio, je pouvais pas faire ces dons de lait. Ce qui en fait était, il me semble, pas juste, mais du coup j'ai mis en place ces démarches de dons de lait à Necker quand le petit avait, je pense, 2 mois et demi. Et moi j'ai repris le travail à 4 mois. Du coup j'ai fait une fois du don de lait pour le lactat. Enfin, comme une collecte. Voilà.
T'as fait une collecte et t'as donné 50 litres.
Je sais plus du tout combien j'ai donné. Mais ouais, j'ai donné une fois dans la journée. En fait. Alors à ce moment-là, ma lactation, elle s'était stabilisée. Parce qu'en fait, dans un premier temps, il y avait aussi que c'était tellement le bazar que j'avais même pas le temps de penser à faire du don de lait. Honnêtement, le lait, c'était... Enfin, mon tire-lait, c'était devenu à la fois mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'à la fois, il me soulageait, à la fois, je pouvais plus le voir. S'il fallait en plus que je stérilise à chaque fois, que je me lave les seins à chaque fois, franchement je crois que je l'aurais pas fait dès le démarrage. Donc il y a eu les infections urinaires derrière, je l'ai fait, mais je l'ai fait à un moment où ma lactation elle s'était stabilisée et que ça allait bien. Donc en fait j'avais même peur en le faisant de restimuler et de me remettre dans les embrouilles, mais je l'ai fait quand même parce que ça me faisait plaisir et que je pouvais le faire. Et donc je l'ai fait pendant un mois, tu vois, avant d'après commencer à réduire un peu ma lactation, parce que je reprenais 15 jours plus tard et qu'il n'était pas question de me retrouver avec les seins qui explosaient au cabinet. Enfin, je sais pas si tu vois comment on fait quand on manipule les dorsales des gens, mais bon, clairement, t'as tes seins sur les bras des gens, et s'ils explosent, voilà, les milk showers, t'es réservé à la maison, quoi.
J'y viendrai après, oui, à la milk shower avec le papa. Mais il y a quand même une question, si tu veux, quand je t'écoute parler de ce début d'allaitement et de ce tout début de postpartum aussi, parce que le postpartum, c'est pas que le lancement de l'allaitement, il y a plein de choses qui se passent. Et je me demande si, comme ça, est-ce que le fait d'avoir quand même cette hyperlactation, ces seins douloureux et puis cette période compliquée, est-ce que ça a joué sur la relation avec ton enfant dans ce début de postpartum ? Est-ce que comment tu t'es sentie vis-à-vis de la relation ?
Non, ça n'a pas du tout joué sur la relation avec mon enfant. Je pense que ça aurait pu, mais Andrea n'était pas ma première grossesse. Il y a eu une grossesse avant ça qui s'est malheureusement terminée en interruption médicale de grossesse pour cause de malformation. Cette expérience-là a été assez douloureuse, et D'ailleurs, c'était en fait ma première expérience d'allaitement parce que mes seins ont gonflé de la même façon, sans bébé, sans tire-lait, sans rien. Je me suis retrouvée 4 jours plus tard avec des seins comme des obus et je me souviens de dégouliner littéralement de lait au château de Versailles qu'on était parti visiter pour changer les idées avec mon mari. Et je dégoulinais et ma sœur me disait « Charlotte, va acheter des coussinets d'allaitement pour tamponner le truc. » Et je lui disais « C'est ma limite, je n'irai pas acheter de coussinets d'allaitement, je n'ai pas de bébé, je n'irai pas acheter ces putains de coussinets d'allaitement. » Et bon, ce postpartum-là, pour le coup, a été vraiment très compliqué émotionnellement. Je crois que c'est d'ailleurs cette expérience-là qui m'a montré que j'étais déjà une maman, en fait. Moi qui n'étais pas très sûre avant cette première grossesse d'être prête. Je crois que je disais toujours, je crois qu'un jour j'en aurais envie, mais jamais je serais prête. Bon, en fait, ça m'a montré que si j'étais prête et que j'en avais envie. Et donc, quand Andrea est arrivée, le postpartum et la relation avec lui, en fait, c'est comme si c'était une évidence. La grossesse, pour moi, était vraiment pas du tout un moment de grâce. J'adore m'occuper des femmes qui sont dans ce moment-là, mais moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un enfer. Non pas parce que j'étais douloureuse, parce que physiquement, il y avait un problème. La grossesse se passait bien cette fois-ci, il n'y avait pas de sujet. Je pense que la première expérience avait quand même été source de stress dans les premiers temps, jusqu'à savoir si le bébé n'avait pas de grosses malformations. Mais même comme ça, je déteste être enceinte. Je déteste l'attention trop importante, pour moi en tout cas, qu'on me portait quand j'étais enceinte. En tout cas, qu'on portait à mon ventre et à ce que je mangeais et à si j'avais pris du poids. Et enfin voilà, tous ces trucs autour de la grossesse qui franchement m'horripilent profondément. Et donc quand Andrea est arrivée, quand j'étais enceinte, je disais... Franchement, je l'aime déjà, mais vraiment vivement qu'on soit dans deux corps séparés. je ne supportais pas. Je disais, cette location sur le long terme, gratuite, de surcroît, ne me convient pas du tout. il faut qu'il sorte. Voilà. Et donc, une fois qu'il était sorti, ça s'est vérifié. Pour moi, le postpartum était une période vachement plus faste que la grossesse. Et c'est vrai que ce truc d'allaitement au démarrage... m'a donné quelques galères physiques, mais honnêtement, j'étais tellement contente qu'il soit dehors, tellement contente qu'il aille bien et de me dire que cette grossesse, le stress de la grossesse et que l'attention se déporte de moi à lui, je revivais. Moi, j'ai revécu le jour où j'ai accouché, alors que mon bébé, il était en néonate et qu'on allait peut-être me dire qu'on allait me l'envoyer dans un autre hôpital, s'il allait pas mieux rapidement. Moi, j'étais là, ok, dites-moi juste s'il reste ici. Et à partir du moment où il restait ici, je me souviens de dire à mon mec qui vient me voir dans la chambre... après les 2 heures là après la délivrance, tu restes 2 heures en salle de naissance pour te reposer. Et il me dit, ok, c'est bon, il a l'air stabilisé, normalement il le garde. Et je l'ai regardé, j'ai dit, ok, demande-leur si je peux dormir. J'étais complètement déconnectée, l'accouchement avait été long. Et j'ai mis quelques jours à connecter avec Andrea. Mais en fait, c'était pas du tout du fait de l'allaitement, c'était du fait de juste redescendre sur terre après cet accouchement hyper long, la séparation avec lui. L'allaitement, c'était un non-sujet rapport à ma relation avec Andrea. J'étais trop contente qu'il soit là et j'adorais être en peau à peau avec lui. Et voilà, j'étais scotchée à mon bébé passé quelques heures et je m'en foutais de l'allaitement. C'était mon problème à moi, ça lui appartenait pas.
Ok, super, c'est en effet une très belle nouvelle de savoir que ça n'a pas impacté négativement le sujet. En effet, après, avec ton parcours, c'est en tout cas un beau cadeau que la vie t'a fait, enfin, en tout cas que vous êtes activé à faire avec ton mari. Et justement, parlons de ton mari. Alors, mis à part le fait de prendre des douches de lait, je suppose, toutes les nuits et de se réveiller dans un lit, dans une bassine de lait toutes les nuits, comment ça s'est passé pour lui l'allaitement ? Est-ce qu'il a réussi à trouver sa place ? Est-ce qu'il s'est impliqué ou pas ? Comment ça s'est passé ?
Mon mec, pendant l'allaitement, c'était celui qui m'a amené le verre d'eau, tu sais. celui dont tu as besoin. Mais en fait, une fois que tu as commencé la tétée, parce qu'avant, tu t'étais pas rendu compte que tu avais soif, c'est le fait que la tétée commence qui te donne soif. Et donc, je me souviens de lui un jour me dire... Je ne sers pas que à amener des verres d'eau, en fait. Je peux faire d'autres trucs. Et c'est vrai que je m'installais sur le canapé et je commençais la tétée. Je disais, ah, est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau, s'il te plaît ? Et donc, il m'a amené mes verres d'eau. Il m'a amené à manger. Il me nourrissait pendant que moi, je nourrissais le petit. Il me préparait des petits déj de dingue. Il me faisait des cakes salés. On rajoutait de la ricotta dessus et tout. Il m'en faisait des petits carrés. Il me les mettait dans une assiette posée sur le dossier du canapé. Comme ça, je pouvais manger en même temps que le petit y tétait. Il m'aidait, il m'aidait sur tout ce qu'il pouvait faire à côté. Julien, il se levait la nuit pour si jamais une nuit c'était dur et que j'étais fatiguée, il se levait juste pour soutenir et dire qu'on était deux. Souvent, c'était lui qui changeait une couche quand il y avait besoin. Comme ça, je restais encore 2 secondes dans le lit. Et puis, alors, il ne me l'amenait pas parce que je n'allaitais pas dans le lit. Vu le bordel que c'était, c'était tout un process d'aller allaiter.
Donc tu allaitais dans la baignoire ?
Non, j'allaitais pas dans la baignoire, j'allaitais dans le canapé, mais avec des langes pour colmater les fuites, quoi. Voilà. Mais Julien, il m'aidait avec tout ce que peut faire un papa dans les démarrages. De la même façon, il n'était pas du tout informé sur ces sujets-là. On n'était pas informé sur l'importance, tu vois, de l'aide en postpartum. Moi, j'étais en forme, donc le postpartum n'a pas été un gros sujet. Physiquement, j'étais pas abîmée, j'avais pas de cicatrice au niveau du périnée. Je me suis remise vraiment rapidement. Et donc, il était là, mais il n'a pas pris ses 15 jours de congé paternité, tu vois, Julien. Il est chef d'entreprise. À l'époque, je sais qu'il ferait différemment aujourd'hui, mais à l'époque, il se disait, oh là là, faut que je retourne bosser un minimum, etc. Il n'a pas travaillé la semaine de la maternité ou vite fait de l'ordinateur un peu dans la chambre de l'hôpital. Ensuite, il n'a pas pris ses 15 jours. En revanche, il était là. C'est-à-dire que si un matin, moi, j'étais à bout et que j'avais besoin qu'il reste et qu'il n'avait pas de rendez-vous, il restait, tu vois. Donc, je pense que je ne l'ai pas eu pendant ces 11 jours de congé pat, mais qu'en revanche, finalement, je l'ai eu peut-être plus de temps cumulé parce qu'on avait envie de faire une séance photo avec le petit, on l'a calé en semaine une après-midi. Si jamais un jour j'étais crevée, il pouvait rester. Il rentrait beaucoup plus tôt le soir que ce qu'il rentrait à l'habitude avant. Et donc voilà, je considère que j'ai pas été lésée. Si c'était à refaire, je lui dirais, voilà, prends un vrai moment aussi, parce que si un jour on le refait, il y en aura deux et ce sera pas le même enjeu. Mais moi, j'étais en fusion totale avec le petit. Quand il était porté, il ne disait rien, cet enfant. Donc globalement, j'avais une écharpe de portage, le canapé, peau à peau, et il s'est passé 4 mois comme ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hyper facile.
Alors, sur le congé paternité, c'est vrai que tu touches un sujet sur lequel moi, je suis particulièrement sensible. Et j'entends parfaitement les obligations pro, surtout que la rémunération n'est pas forcément disponible selon les activités quand on est indépendant. Donc, c'est pas évident. Cela dit... je reste convaincu que le fait de prendre ce temps, c'est important déjà pour le papa, et c'est important aussi pour la maman, parce que tu disais, si j'étais trop fatigué, si machin, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu t'autorisais à être trop fatigué justement parce que t'étais seul avec le bébé, tu vois ? Est-ce que finalement, si vous aviez pas été tout le temps à deux, t'aurais pas eu, tu vois,
Des temps, évidemment.
Tu vois.
Évidemment, l'idéal aurait été qu'il soit là plus longtemps, dans le meilleur des mondes, et lui aussi aurait préféré être là, d'ailleurs. Dans le meilleur des mondes, je l'aurais eu à mes côtés, et on aurait été tous les trois, sans parler d'ailleurs de ma fatigue, de l'allaitement ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'il fallait qu'il connecte avec ce bébé, et que ça, c'est des choses qui sont à retardement quand ils ne sont pas autant là que nous.
Et puis pour le coup, ce qu'il y avait de super chouette avec l'hyperlactation, tu vois, parce que moi je vois le positif souvent dans des endroits improbables, c'est que comme le bébé était plein de lait après chaque tétée, c'était aussi l'occasion de donner un bain à chaque fois, et donc de passer un moment avec le papa, tu vois.
Mais voyons Cédric, le lait maternel est très bon pour la peau, je ne lavais pas mon bébé après chaque tétée.
Oui mais ça colle après, c'est chiant. Cela dit, c'est vrai, le lait maternel est très bon pour la peau, et d'ailleurs, on peut réutiliser du lait qu'on pensait avoir perdu dans des bains, et même pour les adultes, très clairement. Voilà,
fait.
Ça c'est la petite information santé et conseil beauté de Cédric.
Le point Milchek.
Est-ce que lui, il a jugé justement que cet allaitement, et notamment avec ce côté un peu hyperlactation, tu vois, donc qui était qui avait quand même pas mal de contraintes, est-ce qu'il a trouvé que c'était un frein dans la relation avec son enfant ou pas?
Non, je pense pas qu'il ait considéré l'allaitement comme un frein dans la relation avec son bébé. Il a quand même eu à un moment, tu sais, cette phrase de ben en fait, t'avais dit que si ça se passait pas bien, t'arrêterais. Et là, ça se passe pas bien. Voilà. Ce à quoi je lui ai rétorqué, ben ouais, mais t'es bien gentil, tu vois bien que je déborde. Et là, ben, je peux pas arrêter, en fait. C'est pas possible. Physiologiquement, c'est pas possible d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, je vais réduire tranquillement et ensuite, on verra. Mais sinon, il était soutenant au quotidien. Il suivait ce que moi, je faisais, mais il était... Tu vois, il me poussait pas du tout dans l'allaitement. Il était en mode un peu comme moi. Tu le fais. En fait, si tu le fais, si t'as envie, si t'en as pas envie, moi ça me va aussi. Il était nettement moins renseigné que moi pour savoir si c'était le meilleur ou pas. Il se doutait que c'était mieux et donc voilà, il m'a laissé gérer. Ça a pas été du tout un frein dans la relation avec son bébé parce que Andrea n'étant vraiment pas un bébé scotché au sein et les tétés ne durant pas du tout une heure. Ben voilà, en un quart d'heure, c'était plié. Hein. Il avait tété et vraiment, il était repu. Donc après, c'était portage, on le pose, machin, on fait des trucs avec lui, il dort. Mon allaitement n'a pas du tout été un frein là-dedans.
Pour finir sur le sujet du papa, j'ai quand même une dernière question, un petit peu anecdote. Ouais. Bon, moi, je suis déjà passé dans Milk Shaker, j'ai déjà raconté des anecdotes où j'ai pris du lait dans la tronche. Et avec cette, ah oui. Et encore, c'était avec une lactation normale, bien qu'il y avait un réflexe d'éjection fort. Vas-y, tu peux nous donner une petite anecdote avec le papa. Je suis sûr qu'il doit y avoir une douche de lait qui traîne, une milk shower qui traîne ou quelque chose comme ça dans ton tiroir.
Non, il n'y a pas de milk shower parce que, en fait, je ne pouvais pas laisser mes seins à l'air. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même dans rapport intime, en fait, j'avais une brassière, j'avais un truc. Parce que vraiment, ça dégoulinait de dingue. Pour moi, le coussinet d'allaitement a été comme un sous-vêtement pendant un an. Voilà. Je n'ai pas vécu sans. Donc, j'avais ma brassière avec mes coussinets. Et ah ouais. En plus, voilà, l'épisode avec Camille, la sexologue, est sorti cette semaine-là. Clairement, les rapports, c'est le truc qui fait sécréter de l'ocytocine et qui fait que ça coule encore plus. Donc... quand tu as fait l'expérience une fois, la brassière que tu n'avais pas enlevée la première fois, par chance, entre guillemets, tu ne l'enlèves pas la deuxième.
Non, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'apport d'ocytocine avec une hyperlactation. J'imagine en effet que ça doit être café rigolo. Tu m'as mis une image en tête très étrange, mais c'est...
C'est vrai.
C'est marrant.
Non, ouais, j'étais... barricadé de la poitrine tout le temps. Ce qui est dommage parce que mes seins n'ont jamais été aussi gros. Ils n'ont jamais existé autant que pendant l'allaitement. Et en fait, le pauvre, c'est-à-dire que d'habitude, il n'y en a pas. Et là, il y en avait, mais ils étaient inutilisables. Enfin, en tout cas, pas par un mec. Donc, franchement, la frustration, quoi, c'est naze. C'est nul.
Bon, je pense qu'il s'en est remis et que ça n'empêche rien.
Il s'en est remis, mais c'est quand même un peu con, quoi, quand il pense.
Tu parlais tout à l'heure de l'entourage de la famille qui n'avait pas compris, qui ne comprenait toujours pas d'ailleurs. Comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que tu as eu des réflexions? Est-ce que tu as eu, bon, vu ce que tu as dit, j'imagine que tu n'as pas eu trop d'encouragement, mais pour le coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu entendre?
Pendant les trois premiers mois, alors la première partie, quand c'était vraiment galère, c'était ben, pourquoi tu continues, arrête si ça ne va pas. Une fois que ça s'était stabilisé, j'ai vécu un peu le schéma classique de 0 à 3 mois. C'est « Ah, c'est bien, t'allaites. » De 3 à 6, « Ah, t'allaites encore? T'as encore du lait ?» Oui, encore du lait. Tant qu'il tète, il y aura du lait. Et puis, vu les quantités de base, a priori, ça va pas se tarir comme ça. Et puis, passé 6 mois, je suis rentrée dans le classique. Mais pourquoi tu fais ça? La famille, les amis aussi, et pour qui me connaissent bien, hein, qui sont proches, mais à qui je pense que j'avais pas non plus fait passer le message de l'importance de l'allaitement pour moi, en tout cas de l'importance que ça avait pris dans ma maternité. Ouais, c'est le plus désagréable, je trouve, c'est le... Pourquoi tu continues, en fait? Ça apporte quoi? Et j'avais même pas envie de leur rétorquer le côté nutritionnel ou je sais pas quoi, parce que j'avais juste envie de leur dire, en fait... C'était comme ça hier, c'est comme ça. Enfin, pourquoi aujourd'hui je dois arrêter si hier ça se passe bien, demain ça se passe aussi En fait, juste lâche-moi la grappe. Voilà. Et après, c'est là que je suis pas forcément quelqu'un d'hyper agréable quand on vient me titiller. Et j'étais là. En fait, juste, j'ai même pas envie de te répondre. J'étais pas une grande défenseuse de l'allaitement à l'époque. Et j'étais juste là. Bah, en fait, cette question. Et c'était un peu comme les injonctions pendant la grossesse et ce truc de l'attention qui se tourne vers quelque chose qui m'oppressait. Et ben là, c'était un peu reparti, mais avec l'allaitement et mes seins, quoi. Parce qu'il restait que ça de la grossesse. Alors, ça se tournait vers pourquoi tu fais ça ? En plus, j'avais repris le boulot, donc c'était. J'avais repris le boulot, je voulais qu'il ait quand même un peu de mon lait la journée, puis de toute façon, il fallait que je vide mes seins pour arriver au boulot dans un état correct. Donc, je lui donnais à manger le matin au petit, et puis après, je tirais. Et en fait, je vidais le sein que lui n'avait pas fini de vider complètement, et je tirais l'autre, comme ça, j'arrivais au cabinet sereine avec les seins dégonflés. Et puis le soir, je le nourrissais et je retirais dans la soirée pour, pareil, vider avant la nuit et me dire aussi que comme ça, en fait, ça lui faisait ses biberons de la journée, finalement, et que j'ai pu l'allaiter exclusivement jusqu'à 7 mois, je crois, ou 7 mois et demi, alors que j'ai repris quand il en avait 4. Donc entre les stocks que j'avais et ce que moi, je tirais matin et soir, voilà, et André, il a eu que du lait maternel pendant 7 mois.
Oui, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ton récit, dans ton retour d'expérience, c'est que il y a quand même cette marque justement du fait que l'allaitement n'est pas du tout normalisé, l'allaitement non écourté n'est pas du tout normalisé, parce qu'on peut entendre de ci de là que c'est bon, faut arrêter avec l'allaitement, sauf que on voit bien que ce que vivent les mères en priorité, qui sont quand même sur le front, bah, c'est très désagréable et il y a un jugement qui est permanent. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que dans notre société, en tout cas en France, on pose jamais la question à quelqu'un, mais attends, mais tu donnes le biberon là? Ouais. Mais jusqu'à quand? Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui n'arrive pas, et donc oui, c'est très désagréable. Donc encore une fois, soutien aux mères et aux parents et coparents qui font le choix de cet allaitement en non écourté, non pas pour une question militante, mais juste parce que c'est un choix qui est pas forcément facile à tenir et qu'il faut s'accrocher. Puis celles et ceux qui ne le font pas, ben ça peut aussi ouvrir la réflexion sur comment est-ce qu'on peut s'adresser ou pas à un parent qui allaite ou qui co-allaite. Tu parlais de ta reprise du travail, donc ça c'était un point important, c'est un point qui est quand même crucial quand on conduit un allaitement, notamment un allaitement non écourté. Donc si je comprends bien, tu tirais le matin, c'est ça, pour pas exploser sur tes patients, ce qui est une attention délicate. et ensuite, tu donnais le soir et tu retirais le soir. Dans la journée, tu tirais pas du tout ?
Non. Une des limites que je m'étais mise parce que mes cabinets sont faits de telle façon que... Alors à l'époque, j'avais pas le centre IJ où je travaille aujourd'hui. À l'époque, j'ai deux cabinets où je travaille chacun à mi-temps, mais je change de cabinet parce qu'ils sont proches à la mi-journée. Et j'ai une associée qui fait l'inverse de moi. C'est des cabinets où il n'y a pas de frigo, où j'ai une heure pour manger, sachant qu'il faut aussi passer d'un cabinet à l'autre. Et je n'envisage pas une seule seconde d'emmener mon tire-lait ou d'avoir un tire-lait nomade pour faire ça en pleine journée et avoir la glacière. Et ça, plus voilà, la charge qui se rajoutait de partir plus tôt le soir. Donc déjà, moi, j'enlevais des patients parce que avant, de 18h à 20h, je travaillais. Et là, à 18h, bah voilà, fallait être partie du cabinet, récupérer chouchou, rentrer à la maison, on connaît le truc, bain, manger, bain, tété, dodo. Autant Julien, avec le temps, a été beaucoup plus présent sur ce temps périboulot. Mais à l'origine, il faisait quand même des énormes horaires entre les chantiers, parce qu'il est dans le bâtiment, et son travail de chef d'entreprise. Et on a passé jusqu'au confinement 2020 des moments où la charge de s'occuper d'Andrea en semaine était franchement déséquilibrée. Et où lui, il est très rarement là le matin, parce que les chantiers, ça commence très tôt, et qu'on ne dépose pas Andrea à la garde à 7h le matin avant de partir sur un chantier. Et que le soir, c'était moi qui ne bossais pas 3 soirs par semaine à partir de 18h, et lui rentrait pour 18h 2 autres soirs. Donc tu vois, c'était réparti comme ça. Donc en fait, c'était beaucoup plus moi que lui. Et donc... ça me faisait quand même un sacré emploi du temps, plus la reprise. Enfin voilà, on sait, à 4 mois, t'es encore en postpartum, t'es fatigué, bébé, il dort. Enfin, j'ai de la chance, il dormait plutôt bien. Et pas pareil, un bébé repu et qui va bien globalement, qui a pas de gros problèmes. À 4 mois, Andrea, il dormait, quoi. Il pouvait nous faire 12 heures par nuit. Mais ça, c'était dans la théorie. Dans la pratique, il y avait des nuits où ça se passait pas comme ça.
Je pense qu'il faudra donner le numéro de modèle aux futurs parents pour qu'ils puissent avoir le sommeil.
Ouais, non, mais en plus, il est vraiment beau et tout, donc je peux essayer de vous donner le numéro de modèle, mais par contre, je vais pas mère porteuse parce que je déteste la grossesse. donc voilà, la charge était un petit peu déséquilibrée et à l'idée d'avoir un tire-lait, d'avoir la gestion du lait en plus la journée, franchement, c'était too much. Autant je voulais bien passer plus de temps le matin, me lever un peu plus tôt pour avoir le temps de tirer un peu, que lui mange, etc. Et le soir, le refaire devant la télé tranquillou. Mais je ne me voyais pas du tout le faire la journée. Donc j'ai, pendant les vacances de Noël, parce que j'ai repris début janvier, un peu mis en place ce rythme de... on essaie d'enlever les tétés de la journée. On fait les tétés matin et soir. Je l'ai préparé ça pendant les vacances de Noël, si tu veux.
Ah, mais c'est un rythme très intéressant qui est difficile à mettre en place. Mais en effet, ça peut être cool, quoi.
Difficile à mettre en place. Et en même temps, finalement, ça a été plus simple que prévu. C'est-à-dire que oui, à la fin de la journée, j'avais les seins un peu... genre, j'étais contente de rentrer. Mais en même temps, je crois que j'ai vraiment apprécié l'allaitement une fois que j'avais repris le travail. Parce qu'avant ça... Alors que j'avais, encore une fois, j'avais pas un bébé accroché à moi toute la journée, en tout cas pas pour manger, mais je trouvais que quand même c'était très prenant, quoi, comme système. Alors qu'une fois que j'avais repris le travail et que j'avais récupéré un petit peu de mon indépendance, j'adorais ces moments-là, matin et soir. J'en faisais plus des moments privilégiés que je n'en faisais au démarrage. Et j'avoue que, ouais, je peux dire que j'ai vraiment aimé allaiter quand il a eu 4 mois et que j'ai repris le travail.
Ok, bah écoute, c'est une belle étape en tout cas qui est franchie avec beaucoup de sérénité. Donc ça c'est chouette parce que c'est pas souvent qu'on entend justement que l'allaitement est mieux vécu à la reprise du travail. Et donc les mois passent et ne se ressemblent pas avec un bébé qui grandit et qui devient bambin et puis va arriver donc la fin de cet allaitement, donc à autour de 12 mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et alors, comment s'est arrivé ce sevrage?
Hyper facilement. Ça a été très simple parce que Andrea était habitué à prendre des biberons très vite. Ouais, ce que j'ai pas dit, mais c'est qu'à 3 semaines, en fait, Andrea, il prenait déjà des biberons quand même. Parce que, ouais, moi, j'avais ce côté de... J'avais quand même peur que l'allaitement soit un truc trop contraignant pour moi. Et comme en plus, c'était très facile de tirer... Rapidement, j'ai voulu introduire des biberons juste pour voir si ça passait, en fait. Comme pour me rassurer et me dire que j'aurais pas le souci d'un bébé qui ne voulait pas les prendre. Donc il avait 3 semaines, 4 semaines, je me souviens d'une nuit compliquée où j'en avais marre, je me souviens de me réveiller et de dire à Julien, franchement, moi je suis pas faite pour ça, pas pour l'allaitement, mais je veux dire, oh, franchement ça me saoule, voilà, c'était mieux avant, j'en ai marre, je suis pas faite pour ça. Il m'a dit, ok, tu veux que j'appelle mes parents pour qu'ils viennent le garder un peu ce soir? Je dis, ouais, très bonne idée. Et donc on s'est barré, le petit avait 3-4 semaines, on s'est barré au resto une soirée pour que je puisse prendre un peu d'air, etc. Tu parles, le petit ce soir-là, il a été genre trop chou, évidemment. Il s'est endormi en 3 secondes 30 dans les bras de sa grand-mère qui était aux anges. A pris un petit biberon. Moi, je suis allée au resto, j'ai picolé, je suis rentrée. Comme j'avais trop de lait, j'ai tiré mon lait, je l'ai mis dans le lavabo. Enfin, mais vraiment, tu sais, la vie. On était quand même au niveau zéro du renseignement, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je ferais pas pareil, juste en sachant les éventuelles conséquences que ça peut avoir. Le côté précieux du lait maternel. Moi, je partais en soirée, le petit prenait un biberon, et puis je tirais mon lait, je rentrais. Le lait était bien alcoolisé, donc je me disais quand même, je vais pas lui donner ça. Je le mettais dans le lavabo, et puis on n'en parlait plus. Mais donc, il a toujours pris des biberons pour que je puisse aller faire un rendez-vous de mon côté si je voulais et pouvoir laisser un biberon au papa. J'ai jamais emmené Andrea à un rendez-vous médical à moi. J'avais toujours quelqu'un pour le garder. Et en général, il n'y avait pas besoin forcément de lui donner un biberon. Mais au moins, il était là. Et, en fait, voilà, je pense que c'était un truc dont moi, j'avais besoin pour être rassurée sur le fait que cet allaitement était périn. Mais il était périn aussi parce que j'avais une certaine indépendance par rapport à ça. Donc, du coup... La suite de tout ça, quand Andrea grandit, c'est qu'il prend déjà 2 biberons par jour et que c'est très simple. Donc le soir, je l'allaite, le matin, je l'allaite. Et puis très progressivement, en fait, c'est au moment de l'été, je crois que c'est en juillet, que je commence à me dire, allez, je vais peut-être enlever la tétée du... Je crois que je voulais enlever la tétée du matin, parce que le matin, il tétait moins bien, donc souvent, il réclamait encore un peu après, dans la matinée. Là, nous, elle me disait, oh, j'ai eu l'impression qu'il avait faim, donc elle lui avait refilé un biberon. Donc, j'ai enlevé celle du matin. je tirais pour qu'il ait un biberon au début. Puis après, j'ai tiré de moins en moins et la tétée du matin a disparu comme ça. La tétée du soir, elle a mis un peu plus de temps, mais voilà, ça s'est arrêté 15 jours avant ses 1 an. Et je pense qu'un soir, vraiment, je le mets au sein et il tourne la tête, quoi. Il tourne la tête et enfin, il s'en était désintéressé progressivement parce que moi, je le désintéressais de ça, en fait. Mmh. Alors, sans information aucune, je t'aurais dit, bah, ce bébé, il s'est sevré, il en avait marre. Non, il s'est pas sevré, il en avait marre. C'est moi qui ai induit ce truc-là. C'était le bon moment pour moi, c'était le bon moment pour notre couple aussi, parce que, encore une fois, on n'était pas renseignés. Moi, j'avais pas la normalisation de l'allaitement du bambin que je peux avoir dans la tête aujourd'hui. Et je crois que je n'étais pas cap à l'époque de m'imaginer un enfant qui marchait et qui venait me voir pour téter. Donc, franchement, c'est pour ça que ça s'est arrêté 1 an, tu vois. 1 an, acquisition de la marche, tranquillement, je voyais venir le truc. Et j'ai pas eu de regrets après coup en étant renseignée. Je me suis juste dit, peut-être qu'une autre fois, ce sera différent, mais je sais même pas, tu vois. Quand j'y repense, je me dis, peut-être que je referai la même chose, parce que même si aujourd'hui, dans ma tête, c'est normalisé pour les autres, je sais pas si moi, j'en ai envie.
C'est une belle réflexion que t'as menée là. Bah écoute, on verra au deuxième.
Ouais. Avec mon amour pour la grossesse, on n'est pas encore là.
Ah. Cette expérience d'allaitement, pour le coup, pour toi, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie pro et perso? Bon, vu qu'on est à ce micro-là dans Milk Checker, qui est quand même ton podcast, hein, on peut le dire pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris. Qu'est-ce que ça t'a amené, pour le coup, donc, comme projet, comme changement dans ta vie pro et perso?
À titre perso, je sais pas si ça a changé. Ça a changé à titre pro et du coup, ça m'a fait évoluer aussi à titre perso, justement, tu vois, sur ces croyances, ces idées reçues autour de l'allaitement que moi aussi, j'étais imprégnée et que je véhiculais, malgré moi. Mais la vraie prise de conscience, elle a été à titre professionnel. Et c'est un mix d'allaitement et de maternité tout court, en fait. Encore une fois, cette première grossesse a eu un gros impact sur moi psychologiquement quand ça s'est arrêté. M'a fait rentrer dans le monde de la parentalité sans bébé, mais voilà, avec plein d'émotions. Et ça m'a permis d'aborder la deuxième grossesse et donc la deuxième maternité de façon tout à fait différente. Je pense que c'est aussi par ça que l'allaitement a été plus important que ce que j'imaginais. Et ensuite, bah voilà, ce timing décalé pour cause de première grossesse qui a échoué, entre guillemets, a été comme une suite logique de choses qui m'ont amené à ce que ma vie professionnelle change. Parce que donc Andréa naît en septembre, en janvier je reprends le travail. Et un soir, on sortait avec des amis et mon associé, que j'avais pas vu depuis un moment parce que j'avais été en congé mat. Et je me dis, j'ai 2 patients qui annulent dans la journée. Ça fait une grosse pause déjeuner et je me dis, ok, trop bien, parce que comme on devait sortir ce soir, je rentre à la maison, je tire mon lait. Et comme ça, ce soir, j'ai les seins vides pour aller dîner. Donc je rentre à la maison et en bonne maman poule que je suis devenue, je me mate une rediff des maternelles, du matin même. Et là, je découvre quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Catherine Ribus, qui est ostéopathe, qui est spécialisée en périnate, en gynéco et en pédiatrie, et qui parle de son association qu'elle a créée pour les femmes et pour les enfants qui ont besoin de soins d'ostéo et qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc elle parle de cette association et je me dis « Ah, top, je vais joindre l'utile et l'agréable ». Je vais aller travailler dans cette association. Pour moi, ça va être de la formation continue. Et en même temps, voilà, c'est utile. Et j'avais envie d'être bénévole quelque part pour une association. Et celle-ci, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. Et donc, j'appelle Catherine Ribus. Elle me dit qu'il faut que je me forme en gynéco pour aller à l'association. Et donc, en fait, je fais ces formations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Catherine Ribus est mon associée dans le centre qu'on a créé ensemble l'année dernière. Et que je crois que c'est un peu l'allaitement hein, qui me l'a fait rencontrer, parce que sinon je ne serais pas rentrée à la maison ce midi-là pour tirer mon lait et voilà, pumper devant Catherine Ribus. Ça m'aura permis de la connaître, de rentrer dans l'association, de créer ce centre-là avec elle. Et sur le côté plus allaitement, plus que mon allaitement à moi, mais il m'a fait rencontrer la consultante en lactation qui était la mienne et avec qui maintenant je travaille beaucoup, mais les allaitements de mes copines qui ont accouché en même temps que moi et qui, pour le coup, ont été, pour certains, désastreux, m'ont fait me poser la question de pourquoi ces bébés-là n'arrivaient pas à téter. C'était des bébés qui, en plus, avaient plein de tensions, enfin bref, qui ont enchaîné les galères. Et c'est eux qui m'ont fait réfléchir à... Il y a quelque chose qu'on loupe en ostéopédiatrique avec l'allaitement. Je me suis dit qu'il manquait une case au puzzle et ça m'a fait me renseigner, me former autour de l'allaitement, de la succion, des freins et comprendre tout un système que jusque-là, on ne m'avait jamais enseigné. Donc ça a bouleversé ma vie professionnelle en fait sur différents plans.
Ok, et t'as créé un podcast.
Et oui, et du coup, et puis j'ai créé Milkshaker, ouais exactement. Et Milkshaker, ça intervient après le confinement l'année dernière en fait. Parce que c'est au moment du confinement l'année dernière que je fais un pas dans les réseaux sociaux. Parce que nos patients sont loin de nous, ostéopathes, confinement, on se retrouve vite bête. Hein, parce que quand on traite les gens avec ses mains et qu'on n'a plus le droit d'approcher quelqu'un à moins d'un mètre, et qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a rien, bon bref, donc confinement, pas de travail. Et avec Catherine, avec qui on avait le projet de créer IG4U, on se dit, il faut qu'on profite, entre guillemets, de ce confinement pour faire des supports, rester en contact avec nos patients et leur apporter des conseils dont elles peuvent avoir besoin, même si on est loin. Et donc, on crée des tutoriels destinés à la femme et à l'enfant, qu'on a toujours d'ailleurs sur nos comptes et sur le compte Digi4You, et qui nous permettent de rester en contact. Et puis, le côté réseau prend un peu, les trucs circulent, ça sert à des mamans. Moi, je fais quelques trucs en visio pour les accompagner un peu, leur donner des conseils. Et après le confinement, je me dis vraiment... Parce que c'est là que je découvre un peu le monde allaitant sur Instagram, etc. Et je me dis, on a un vrai problème avec l'allaitement, et je le vois en consultation, et... Mais le plus gros des problèmes, c'est la transmission. C'est le fait que les infos, finalement, elles ne sont pas faciles à aller chercher. Et l'allaitement, il a du mal à sortir des foyers. Donc moi, j'ai envie de le faire rentrer dans les foyers s'il n'arrive pas à en sortir. En tout cas, que les infos, elles rentrent dans les foyers pour qu'après, l'allaitement puisse sortir sereinement. Et le format podcast, je trouve que c'est le format idéal quand on est dans une période de périnade, que c'est facile... Moi, je suis à Paris, on prend les transports, ça s'écoute hyper facilement. Quand t'as un bébé, ça t'évite d'allumer un écran, tu mets ça dans tes oreilles. Et donc, je me suis dit, c'est ça, c'est le bon format. Et je vais faire parler des mamans de leurs expériences pour banaliser le truc, le rendre le plus normal possible. Parce que c'est à force de voir ces mamans allaitantes, d'en voir allaiter des bambins, que ma vision, elle a changé et que c'est devenu une normalité pour moi. Et donc, je me suis simplement dit, plus... ces expériences-là, elles arrivent en nombre chez les gens et plus ça devient une normalité dans leur cerveau et on change cette vision de l'allaitement que la société nous a imposée. Et en plus, comme j'ai cette casquette de professionnelle de santé, je me suis dit que j'allais aussi aller chercher les infos les plus justes possibles auprès des professionnels et les interroger sur qu'est-ce qui peut être impactant autour de l'allaitement. Voilà, c'est comme ça que Milkshaker est né. Je poussais mon fils dans sa poussette un dimanche matin et je dis... Faut que je crée un podcast, c'est ça. Et un mois après, il était créé.
Mais c'est une belle histoire. Ça avait quand même un bel impact, hein, mine de rien, cette histoire d'allaitement sur ta vie.
Ça a eu un gros impact, ouais.
Il y a une dernière question que j'ai un petit peu modifiée parce que souvent, à la fin de l'épisode, tu te demandes à tes invités si elles ont un conseil pour les mamans qui les écoutent et qui allaitent ou qui souhaitent allaiter. Moi, c'est pas cette question-là exactement que je vais te poser. Je vais te demander si tu pouvais revenir 3 ans en arrière. Et te donner un conseil dans ta situation. Ton bébé va arriver ou vient d'arriver et qu'est-ce que tu te dirais justement par rapport à cet allaitement?
Je me dirais, tire pas toutes les 3 heures les 2 seins à la maternité. C'est une grosse connerie. T'avais vu tes seins dégoulinés à Versailles un an avant. Il n'y a pas de souci, tes seins ils vont produire. Donc en fait, no worries, juste mets ce bébé au sein et ça va bien se passer. Voilà, je me dirais juste ça parce que... Mais bon, en fait, dans le fond, je me dirais rien parce que c'est cette hyperlactation aussi qui m'a amenée à appeler cette consultante, à ce qu'elle vienne, à ce qu'on se revoie au moment de la reprise du travail. Et c'est aussi à travers elle, tu vois, que j'ai cheminé sur ce métier de consultante, sur l'importance que ça avait. Et ça a été beaucoup de prise de conscience pour moi, donc... si c'était à refaire, peut-être qu'il faut juste qu'Andrea respire pas bien en arrivant, qu'il aille en néonate, qu'on me donne le numéro de la consultante, parce qu'on me le donne en néonate, c'est une des puères qui est en néonate qui me le donne, Et en fait, c'est comme si tout s'était imbriqué depuis la première grossesse pour que le timing soit décalé et que je reçoive le numéro de cette consultante, que je l'appelle pour moi, que je la rappelle pour mes copines qui galèrent, que je comprenne qu'il y a un truc que je comprends pas, que je me forme, que je rentre à la maison à midi tirer mon lait, le truc improbable, et que je tombe sur Catherine Ribus et que je crée... Enfin, en fait, tout ça a été comme un espèce en horlogerie, quoi. C'est un truc qui déclenche l'autre et qui fait que, voilà, je suis là aujourd'hui à raconter mon histoire dans Milkshaker, alors que, bah voilà, il y a 3 ans, jour pour jour, je pense qu'on peut dire que je t'aurais dit l'allaitement, ouais, vas-y, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas, franchement, je vais pas en faire une affaire.
Ok. Et on arrive à la fin, avec ta fameuse, connue et célèbre et attendue interview Fast Milk.
Ah, oui.
Donc, est-ce que t'es prête ? Il faut répondre, il faut répondre vite et la première chose qui te passe à l'esprit. Ok.
Ok.
Ta tétée la plus insolite.
Ah oui. Ce questionnaire, je l'ai construit pour les autres. Hein. Je ne l'ai pas construit pour moi. Je n'ai pas vraiment de tétée insolite, mais les plus insolites, c'était quand même au démarrage quand il y en avait partout. Et que je me souviens, mes beaux-parents sur la terrasse, moi à l'intérieur, qui se demandent ce que je fous. Avec 50 couches de tissu sur moi, voilà, je pense que c'était ça. J'ai pas de tétée hyper insolite parce que j'étais plutôt une timide de l'allaitement quand même.
D'accord. Le truc le plus glamour qui t'était donné de vivre pendant l'allaitement ?
Ah bah c'est ironique, c'est le tire-lait. Parce que le tire-lait, vraiment, était devenu comme mon deuxième conjoint. C'était la personne qu'on n'oubliait pas avant de partir en week-end, quoi. Avant le bébé, on emmenait le tire-lait, je pense. Donc, le truc le moins glamour, c'est que c'est quand même le tire-lait. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est pas un appareil, même quand il te sauve la vie, que t'as envie d'avoir à côté de toi.
Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement ?
Ma position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, une fois que ma lactation était régulée, etc., c'était d'être allongée dans le lit avec lui, et qu'il se rendorme au petit matin, après une tétée du matin, et qu'il nous fasse faire une semi-grasse mat, parce que c'était un peu le seul moment, pareil, pas renseigné, mais où on s'autorisait le cododo.
Si en un mot, tu pouvais résumer ton allaitement ?
Excès.
Excès, ok. Excès de lait. Fontaine. Grosse fontaine.
Fontaine. Ouais, excès. C'était voilà. Excessif.
Tu vois le miroir d'eau à Bordeaux, c'est pareil. Voilà.
Ouais, c'était trop, c'était too much.
Écoute, merci beaucoup Charlotte, je te rends les clés de
merci
ton podcast.
Merci à toi. Ah, c'est gentil.
Merci. Et je te dis à très bientôt.
D'être venu. Merci Cédric de m'avoir interrogé. J'étais contente que ce soit un homme qui le fasse, et puis par
avec
nos discussions
plaisir.
Qu'on a ensemble le reste du temps, je me disais que t'étais la meilleure personne pour me cuisiner.
Et ce fut un honneur. Merci.
Pour moi aussi. Merci Cédric. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci à Cédric de s'être prêté au jeu. On pense toujours avoir tout dit et je me rends compte comme mes invités en montant cet épisode que j'en ai évidemment oublié. Je n'ai pas dit que vers les 8 mois de mon fils, j'ai beaucoup, beaucoup maigri et pleuré aussi. Et que tout mon entourage mettait ça volontiers sur le compte de cet allaitement qui durait trop longtemps à leurs yeux et me fatiguait. Je faisais alors, comme une bombe à retardement, un méchant coup de blues au souvenir de ma première grossesse. Et du départ de ce premier bébé que je n'avais pas pris le temps de digérer. Je n'ai pas dit non plus qu'à cette époque, arrêter l'allaitement était inenvisageable, car la poitrine qu'il me permettait de conserver, c'était encore la seule chose de mon corps amaigri que je supportais. Et j'ai fait face aussi à ma façon, aux remarques non sollicitées, d'un entourage pourtant bien intentionné. Je le niais sur le moment, et j'ai failli le nier en l'oubliant encore 3 ans plus tard, mais c'est une réalité, et puisque mes invités vous livrent leurs secrets et émotions ici, je me dois de faire de même. Notez qu'au travers de ce témoignage d'un postpartum qui peut vous paraître facile, il y a aussi eu des moments compliqués, des nuits angoissées, certaines journées coincées en portage avec un bébé gluant, des moments de doute ou de fatigue intense. Le tout sur fond d'un amour incommensurable qui se mêle à la pression immense d'être devenue maman de ce petit être si dépendant. Alors retenez que vous n'êtes pas seule, qu'importe ce que vous vivez et que bien entendu tout passe, mais ça passe mieux quand on est entouré et soutenu. Ce que je ne nie pas, c'est à quel point cet allaitement, et vous l'aurez compris, cette maternité m'ont fait évoluer, pour le mieux, je l'espère. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire rayonner ce milkshaker comme un tips qu'on se donne entre maman, papa, copine, de pro à parent, comme un support où, que vous vouliez allaiter ou non, vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour faire des choix, et allaiter ou non, mais sereinement, dans tous les cas. Donc plus que jamais, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.